Alors, est-ce que vous avez des questions ou des problèmes liés à la lecture? Oui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On va en parler encore. On va peut-être essayer de s'expliquer pourquoi aussi quelqu'un décide de faire des noms aussi compliqués. Pas de questions? On n'en est qu'au début, alors les questions n'ont pas encore émergé. Mais alors justement, cette question des noms, à votre avis, pourquoi un écrivain choisit-il de donner des noms aussi bizarres et compliqués à des personnages?
S'exprime quelque ambiance dans un sens exotique ou dictature. On pense à au régime
d'Europe centrale. D'Europe centrale, oui.
Ah, peut-être il y a
C'est déjà un élément important, je crois, oui. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Non. On se demande pourquoi les noms sont si difficiles à prononcer, à mémoriser. Et est-ce qu'il y a une intention de l'auteur plutôt que à avoir choisi des noms simples?
Je pense qu'il y a des raisons avec par rapport avec le régime
frondiste.
Frondiste. Qui se trouve centre Europe, voilà, je crois.
Oui, donc un peu comme monsieur, hein, l'origine d'Europe centrale, avec donc ce que nous connaissons historiquement, des mélanges de populations dans lesquelles on installe cette fiction du régime frondiste avec sa capitale. Et je pense que c'est une part importante de l'explication, si on peut parler d'explication d'ailleurs.
Confusion. On a peut-être confusion artificielle. Le nom de capitale Chambourouche, c'est un peu français, mais les habitants, tous les habitants, c'est pas non pas le nom français.
Oui.
Mais on parle d'argent, pas ce c'est français, ou quelque mélange de divers caractères.
Oui. Et alors cette confusion, comme vous dites, je pense que le mot est très bien. Est-ce que l'écrivain pourrait l'avoir choisi aussi avec une intention par rapport au lecteur? Qu'est-ce que ça pourrait être, cette intention par rapport au lecteur? Aujourd'hui, je commence par vous poser des questions. Hein. D'abord parce que souvent je parle trop. Mais aussi parce que, justement, si ça s'adresse au lecteur, il faut que vous, lecteur, puissiez exprimer votre sensation, situation, aise ou malaise. Apparemment, c'est plutôt malaise, hein, puisqu'on a des difficultés à prononcer ces mots.
Mmh. question.
Ah, éviter de localiser. Hein?
Oui.
Donc en créant une fiction, si on donne des noms qui ont tous la même origine, automatiquement on localise et on pousse les lecteurs à tous penser au même pays. Et alors de cette façon, on ne peut pas localiser, ou on localise ici, et puis au nom suivant, ça se déplace de 1000 ou 2000 kilomètres. Et finalement, on ne peut pas localiser. C'est une idée intéressante, je crois. Ouais. On va voir d'autres noms aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a quelques autres qui sortent, hein, évidemment. Ils finissent par sortir tous, d'ailleurs, hein, dans cette première partie du livre. Et alors, sur cette question des noms, justement, j'ai recherché dans quelques études sur Volodine et j'ai trouvé un livre d'un Français qui s'appelle Jean-Louis Hippolyte, que je pense que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas non plus. Il enseigne aux États-Unis et il a écrit déjà plusieurs articles et un livre sur Volodine. Donc Jean-Louis Hippolyte, Hippolyte comme le prénom, et il a écrit un livre qui s'appelle Fuzzy Fictions. Fuzzy en anglais ça veut dire flou, Fuzzy Fictions. Dans une partie d'un chapitre, Hippolyte explique ou développe, disons, son idée, en faisant d'ailleurs la liste de beaucoup de noms inventés par Volodine, pas seulement dans ce livre, mais dans quelques autres, parce que dans chaque livre, finalement, il y a beaucoup de noms inventés, et de temps en temps, certains noms reviennent, réapparaissent, soit sous la même forme, soit sous une forme un petit peu différente, ça peut arriver aussi. Ce qui ferait d'ailleurs que, d'un livre à l'autre, Volodine construit une sorte de grand monde imaginaire, où de temps en temps un personnage reparaît, un peu comme dans la comédie humaine de Balzac, Balzac ayant dit, expliqué lui-même que c'était pas un plan au départ, mais petit à petit, le plan est apparu et il a pu l'exprimer. Alors, de la part de Volodine, je ne sais pas encore s'il s'agit d'un plan déjà décidé il y a très très longtemps ou qui s'est élaboré au fur et à mesure. Et alors, bon, je reviens à Hippolyte. Il dit que cette succession de noms difficiles à prononcer entraîne parfois les lecteurs à simplement sauter les noms, sauter visuellement et sauter sémantiquement. Et donc on essaye de suivre l'histoire en faisant attention, en évitant les noms des personnages. Ce qui fait d'ailleurs que parfois on ne comprend plus très bien où on en est, parce que un coup c'était Amir Bekian, un coup c'était Boudergeville, bon, ça, on a du mal à savoir. Et ensuite, il explique que finalement, cette attitude de lecteur montre le premier degré de ce qu'on pourrait appeler tout simplement la xénophobie. Xénophobie, ça, c'est un mot qui est très simple à décomposer. En xéno, qui veut dire extérieur, xéno, et phobie, c'est la peur ou la détestation de quelque chose. Donc c'est la peur de l'étranger, la peur des étrangers, qui souvent d'ailleurs se transforme en haine des étrangers. Alors cette peur de l'étranger, elle existe, je crois, en chacun de nous, dans certaines situations. Si nous sommes en danger, nous sentons un danger, nous préférons peut-être nous rapprocher de quelqu'un que nous connaissons, que nous comprenons et qui fait partie déjà de notre univers depuis notre enfance. Donc ce sera quelqu'un du même pays ou de la même région ou du même village. Bon. La xénophobie n'est pas d'ailleurs au-delà des frontières, elle peut être à l'intérieur des frontières entre des gens de régions différentes. Donc j'imagine que pour des grands pays en surface, hein, comme la Chine ou l'Inde ou la Russie, il peut y avoir une xénophobie intérieure entre différentes ethnies ou groupes culturels d'origine différente. Alors, en effet, c'est peut-être un réflexe naturel hein, de se détourner des noms. Et puis, après cette première étape, est-ce que la xénophobie se développe pour devenir une vraie pensée, une sorte de racisme hein, c'est tout à fait possible. Et je crois que si cette chose est peut-être un peu à l'intérieur de chacun, il y a aussi à l'intérieur de chacun des forces contraires, bien entendu, qui disent, qui nous permettent de sentir un intérêt pour l'étranger, un attrait, une attirance. Et selon les personnes, eh bien, ça se mélange d'une façon ou d'une autre. Alors, je pensais tout à l'heure, en voyant la liste de vos noms, hein, qui vous est inscrit dans le cours, si quelqu'un qui arrivait comme ça de France ou d'un autre pays, hein, et devant cette liste, comme ça, essaye de lire avec une très mauvaise prononciation, eh bien, d'abord, vous ne seriez pas très content, et puis la personne elle-même se sentirait mal à l'aise parce qu'elle n'est pas familiarisée avec ces prononciations, ces constructions de mots, et au début, ça se passe comme ça. Peut-être après un certain temps, on apprend à bien prononcer, à connaître, etc. Et c'est finalement ce que Hippolyte et quelques autres appellent dans l'écriture une stratégie de la déception, comme une volonté de décevoir ou de dérouter, de déranger, de gêner le lecteur pour provoquer en lui une réaction. Alors la réaction la plus simple et la moins bonne, c'est de refermer le livre et de dire « Oh, ça m'intéresse pas, il y a des noms trop bizarres. Bon, » ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est face à un raciste. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'a pas trouvé le bon moment pour entrer dans ce livre. Mais c'est un type de réaction tout à fait naturelle. Et puis, quelqu'un d'autre dira « Ah tiens, ce nom-là, ça me rappelle quelque chose, quelqu'un. » Alors peut-être ça se rattache à quelque chose de personnel, donc on va s'y intéresser. Et puis, peut-être pour vous, l'idée que on vous propose un cours, on dit que c'est un écrivain intéressant, important, donc on va essayer de passer par-dessus ce petit problème. Et donc, je vous félicite hein, d'essayer de passer par-dessus une petite tendance qui peut être donc chez tout le monde à la xénophobie. Et donc ce test, une fois fait, on essaye de s'habituer comme ça. Et je pense que s'intéresser de façon très importante au nom peut être un moyen de lutter contre la xénophobie naturelle. Alors, comme ça, je suis allé chercher dans l'internet des morceaux de noms, des noms entiers, des variantes, et j'ai découvert des choses tout à fait étonnantes hein, qui m'ont enrichi et qui, j'espère aussi, vous enrichissent, c'est-à-dire m'apprennent que, ah tiens, dans tel pays, dans tel autre, il y a des gens qui s'appellent comme ça, bien, c'est déjà une façon de les connaître un peu. Je me rappelle quand j'étais enfant, c'est un souvenir personnel, je regardais des cartes de géographie de l'Europe centrale, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, et je passais des heures à lire les noms que je ne comprenais pas. Et pendant très longtemps, sur cette carte, c'était marqué Varsava ou Warszawa. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et par ailleurs, j'avais appris à l'école le nom de Varsovie, mais je n'arrivais pas à comprendre comment ces deux noms pouvaient être le même. Et, déjà, quand on est enfant, je crois qu'on a une tendance à s'intéresser à ces choses-là. Alors, là, on a ce plaisir aussi. Bon, fin de l'interrogation. Si ce questionnement vous intéresse, on pourra en reparler. Qu'avons-nous fait la semaine dernière ? Nous sommes entrés un petit peu dans le texte, on a commencé à regarder en détail les premières phrases, les premières pages, et puis, bon, aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus vite pour rassembler dans cette trentaine de pages, trentaine de premières pages, l'essentiel de ce qui s'est passé et pouvoir commencer la suite. Alors pourquoi je dis cette trentaine de pages ? Eh bien parce que je crois que jusqu'à la page 30 ou le haut de la page 31, nous sommes dans une partie du livre que l'on pourrait appeler traditionnellement l'exposition. Au sens où on pose qu'il y a un certain nombre de personnages, de situations, de conditions sur lesquels on va ensuite développer une histoire, une action. Cette exposition, elle est très classique chez Balzac, par exemple. Tous les lecteurs de Balzac la connaissent. Et on critique aussi chez Balzac le fait que ça ne démarre pas tout de suite. On commence par présenter longuement des personnages. Alors cette exposition chez Volodine, elle a pris une forme stylistique que nous pouvons essayer de regarder. Et cette forme, c'est la reprise à plusieurs pages, l'une après l'autre, d'un début d'histoire qui commence par « c'est l'histoire de ». Donc on commence avec un homme, deux hommes, trois hommes. Ensuite, c'est l'histoire d'un oiseau, et puis juste après, de deux oiseaux, en fait. Ensuite, c'est l'histoire d'un violoncelliste et d'une altiste, c'est dans le texte. Et puis, c'est l'histoire d'un clown. On dit ça. Plutôt, il dit d'ailleurs, à quelle page il écrit, c'est une histoire de clown, à la page 15. Le paragraphe qui commence, à chaque fois c'est au début d'un paragraphe, cette répétition de histoire. C'est également une histoire de clown, l'histoire d'un clown qui travaille au cirque Vanzetti. Alors, il y a quand même une différence entre ces deux expressions. Une histoire de clown, il y a une focalisation sur une histoire, et une histoire de quoi ? Une histoire de clown. Le clown est une notion vague. Et juste après, l'histoire d'un clown. La focalisation s'est déplacée et on est passé de clown comme idée ou thème à un clown, c'est-à-dire un individu. Hein, donc c'est le problème des articles en français tel qu'on essaye toujours de l'expliquer aux étudiants, qui nous vient du latin mais qui a été particularisé dans la langue française. En effet, l'article défini ou indéfini, ou l'absence d'article, a toujours un sens très particulier en français et qui est très difficile à comprendre si on n'a pas été un petit enfant en France. Donc, c'est pas difficile à comprendre si on est étranger. C'est difficile à comprendre si on n'a pas été un petit enfant en France. Je pense que des Japonais qui ont été, par le hasard de leur famille, à l'école en France, quand ils étaient tout petits, peuvent très bien comprendre le système des articles. Et inversement, d'ailleurs, il y a de grands professeurs de français japonais qui ont toujours des difficultés à maîtriser le système des articles. Et je les comprends tout à fait, parce que c'est pas évident. Donc ici, on a un exemple particulier de ce changement de focalisation. Une histoire de clown, ou histoire de clown est en fait une sorte d'expression, hein, comme un seul mot. En anglais, on aurait clown story, hein, c'est-à-dire qu'il forme un groupe comme ça. Et puis, l'histoire d'un clown, alors là, c'est un clown qui se trouve valorisé. Bon, je passe sur ce détail, Volodine ne fait pas spécialement attention à ça, hein, pour les étrangers, évidemment. Et voilà, alors, sur cette trentaine de premières pages, qui en fait c'est 20 et quelques, hein, puisqu'on commence à la page 9, plusieurs histoires commencent. Et elles commencent pas toutes en même temps, elles sont décalées de quelques pages, comme ça. Et puis, entre une histoire et l'autre histoire, parfois, une petite relation s'établit. Alors, lorsqu'on a commencé l'histoire d'un oiseau, par exemple, hein, à la page 12, l'oiseau s'appelle Ragogine, il souffre, etc. Bon. En bas de la page 13, il est tapis à champ rouge, c'est-à-dire il se cache dans la ville, et il est tout seul. Mais juste après, Volodine écrit « Un oiseau donc, mais en réalité, c'est l'histoire de deux oiseaux. » Et alors ce deuxième oiseau, pardon, c'est Will McGrono, qui fait partie du groupe des trois hommes qui sortent de prison. Ça veut dire que du groupe de ces trois hommes qui sortent de prison, l'un, Will McGrono, est un oiseau comme ce Ragogine. On peut s'interroger alors sur la possibilité qu'il y a en même temps d'être et de ne pas être un oiseau. Moi je ne suis pas un oiseau, enfin je n'ai pas l'impression. Tel que je vous vois, vous n'êtes pas non plus des oiseaux. Donc, dans notre façon de voir notre monde, de concevoir le monde, on ne peut pas être à la fois un homme et un oiseau. Pas possible. Ou alors, c'est une particularité du langage qui s'appelle la métaphore. Alors, cet homme-là, c'est un oiseau. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire exactement ? Ben, il est un homme, mais il est comme un oiseau par certains côtés. Donc il y a une ressemblance, une similitude de certaines choses qui font qu'on va le comparer à un oiseau. Et dans notre rhétorique, hein, façon de faire du style, nous avons la possibilité d'enlever les mots de comparaison, hein, comme, tel, semblable, etc. Et on laisse simplement, c'est un oiseau qui s'appelle alors une métaphore, métaphore qui veut dire déplacement du sens. Mais pour tout le monde, lorsqu'on dit cet homme c'est un oiseau, on ne pense pas qu'il est un vrai oiseau. Ici, dans le texte de Volodine, ça arrive. On dit que c'est un oiseau, alors on pense que c'est une métaphore. Mais juste après, il perd des plumes, et puis l'autre, il est complètement décharné. Et puis un petit peu plus tard, c'est Will McGrono, je crois, qui était blessé. Et on dit qu'il lui repousse du duvet. Alors le duvet, ce sont les petites plumes, vous savez, qui poussent aux oiseaux. Bon. Donc c'est, il est vraiment un oiseau. Alors dans d'autres livres de Volodine aussi, un des derniers qui s'appelle « Songe de Mevlido », il y a pas mal d'oiseaux. Il y a une sorte de grand oiseau qui tient une boutique de téléphone. Et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, le personnage humain trouve cet oiseau très belle. D'ailleurs, c'est une femelle. Hein, il la trouve très belle et il utilise des idées, des concepts que nous avons lorsque nous sommes attirés par une belle femme ou par un bel homme, nous, à l'intérieur de notre race humaine. Donc c'est assez étrange. Ça veut dire que chez Volodine, cette possibilité d'être et ne pas être un oiseau, en même temps, existe. Nous sommes obligés de nous habituer ou de comprendre que ce n'est pas notre monde tel que nous le connaissons, mais un autre monde qui ressemble à celui que nous connaissons, mais qui a quelques petites différences. Dans Songe de Mevlido, il y a deux lunes. Pas une lune, mais deux. On a déjà vu ça dans quelques films de science-fiction, hein, où des êtres humains étaient sur une planète tout à fait différente, bon, qui ressemblait à la nôtre. Donc il y a un petit peu de science-fiction, mais à la différence de la science-fiction, Volodin ne traite pas cet univers, ce monde, comme un monde nouveau qu'il faudrait présenter, décrire. Au contraire, il considère, il en parle, comme si c'était le nôtre. Alors, ça ressemble à notre monde, on nous en parle comme ça de façon un peu banale, donc on dit, bah, nous sommes familiers. Et dans ce monde familier, il y a des trucs impossibles. Donc c'est à la fois familier et étrange. C'est peut-être ça que Volodine appelle post-exotisme. Hein, l'idée que quelque chose est en même temps familier et étrange. Donc on a l'expérience de l'exotisme, mais en même temps quelque chose dépasse l'exotisme ou revient, enfin je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est les deux en même temps. Alors, cette possibilité d'être à la fois un vrai oiseau et une métaphore m'a fait penser à une figure de style qui est bien connue par ses exemples, mais dont le nom n'est peut-être pas connu de tout le monde, qui s'appelle le Zeugma. Vous connaissez le Zeugma ? Bon, ben, ça sera
un nouveau mot pour aujourd'hui.
Même si ce n'est pas un nom propre, le Zeugma, ça vient du grec, comme beaucoup de mots de figures de style. Alors, qu'est-ce que c'est un Zeugma ? Qu'est-ce que vous connaissez comme Zeugma ? Un des exemples les plus connus, je crois, c'est peut-être dans le pont Mirabeau d'Apollinaire. Apollinaire écrit « Sous le pont Mirabeau passe... » Qu'est-ce qui passe sous le pont Mirabeau ?
Coule la Seine.
Voilà, sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et après ?
Et nos amours.
Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent. Alors, vous êtes sur un pont, c'est le pont Mirabeau, et vous regardez comme ça, bon. Et sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Vous les voyez, nos amours ? Bon, ça veut dire que sous le pont Mirabeau coule, hein, on a donc une expression, un verbe, comme ça, et juste après, un complément, la Seine. Coule quoi, la Seine ? On sait. Normal. Et ensuite, et nos amours, c'est un deuxième complément, mais la Seine et nos amours ne sont pas deux objets comparables. La Seine, c'est un fleuve, ça existe réellement. Nos amours, c'est quelque chose de l'existence d'une personne, ça n'est pas un objet matériel. Alors, on utilise une seule fois le verbe « cool », mais on l'utilise dans deux sens différents. Parce que « coule la Seine », c'est le sens de l'eau qui coule, un sens très matériel, et « coule nos amours », c'est un sens plus abstrait. Et toujours, le Zeugma associe deux sens différents, en général un sens concret, un sens abstrait, à un mot qui est employé une fois. Alors, on se rapproche de notre cas, hein, c'est on vous parle d'un oiseau, et cet oiseau, il est à la fois vrai oiseau et métaphore, être humain. Donc, et on va rester sur la limite entre les deux, c'est-à-dire sur le « et » entre la Seine et nos amours. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'a fait Apollinaire ? Il a rejeté le « et » en début de vers suivant. Donc pour tous les lecteurs, « Sous le pont Mirabeau coule la Seine », on va à la ligne, hein, « et nos amours ». Ah tiens, c'est une sorte de décalage, hein, de changement de rythme. Et Apollinaire est tout à fait conscient qu'il fait un zeugma. Je ne sais pas si Apollinaire connaît le nom de Zeugma, je suppose qu'il le connaissait, mais il le fait, comme presque tous les poètes le font. Je me rappelle que dans le dictionnaire Petit Larousse, à Zeugma, il y avait un exemple beaucoup plus amusant. C'était « J'aime ma mère et les coquillettes ». J'aime ma mère et les coquillettes. Alors c'est le verbe aimer dans deux sens différents. Hein, aimer sa mère, bon, c'est un amour que tout le monde connaît. Et puis aimer les coquillettes, ben, ça, c'est le goût. Hein, c'est le goût dans la bouche. Donc on voit bien qu'on n'utilise qu'une fois le verbe aimer, mais dans les deux sens. Et le lecteur, l'auditeur développe très bien. Et en général, ça fait rire. Parce que c'est une figure comme ça de concentration, hein, de deux sens, sans répéter le mot. Voilà. Alors je crois que le mot de Zeugma pourrait être retenu non seulement dans le cas de l'oiseau, mais dans beaucoup d'autres situations de Volodine, parce que justement, Volodine va essayer autant qu'il peut, ou très souvent, de jouer sur les deux sens possibles, sens abstrait et sens concret, sans les sélectionner, sans sélectionner l'un ou l'autre. Et le lecteur a la charge, la fonction, le travail de faire un choix ou d'essayer de ne pas faire de choix. Et je crois que si le lecteur réussit à ne pas faire de choix, il garde dans son esprit l'ouverture hein, du sens, toujours, produit par le Zeugma. Alors, on va voir peut-être d'autres occasions de Zeugma avec des doubles sens comme ça qui se proposent à nous. Voilà donc pour cette trentaine de pages. Plusieurs histoires ont commencé. Et elles ont commencé à se rattacher. Donc, comme je disais ici à la page 14, Will McGrodno faisait partie du groupe de Ragojin. Et on peut lire la suite d'ailleurs, qui nous replonge dans le passé, ou qui nous plonge déjà dans le passé. Juste avant d'être incarcéré pour trafic d'armes et usurpation d'identité, Will McGrodno a perdu ses plumes. Perdu ses plumes, donc là au sens... Bah, au sens que vous voulez, les deux. Hein, comme quelqu'un qui a un choc psychologique et qui perd ses cheveux. Hein, ça existe, hein, malheureusement. Lui, il a perdu ses plumes. Mais dans un autre sens imagé, métaphorique, perdre ses plumes, ça veut dire être en faillite, perdre sa fortune dans une mauvaise affaire, comme je disais la semaine dernière. Les gardiens ne lui ont pas pour autant épargné les corvées disciplinaires, le cachot l'a rendu dépressif, tout cela ne l'a pas empêché de rester fidèle à lui-même. Et juste après, on a la première occurrence de rêve et de l'utilisation des rêves. Et ça aussi, c'est une dimension très 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 importante de l'univers construit par Volodine. Je crois que très souvent dans la littérature, on trouve des rêves, des récits de rêves. On dit qu'un personnage rêve, et je vous avais présenté quelques rêves dans l'éducation sentimentale, et qui étaient parfois assez amusants. Hein, le rêve de Frédéric rêvant qu'il était chevauché par la maréchale et qu'elle lui plantait ses talons, etc. Voilà. Mais la plupart du temps, dans la littérature, ces rêves ne servent à rien. Ou bien, ils servent, comme dans notre vie à nous poser des questions, à nous inquiéter, à penser que peut-être il y a un sens. Hein, le langage des rêves, tout le monde cherche à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Si on a rêvé d'un voyage, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a rêvé que on perd une dent, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on cherche des significations. Et il y a d'ailleurs des dictionnaires de rêves qui, à mon avis, ne, ne servent à rien. Mais bon, on peut y croire aussi. Chez Volodine, le rêve va avoir une fonction. Une fonction à la fois de résistance, au sens du résistant qui lutte politiquement contre autre chose, mais également des fonctions de, disons, d'outils. Outils, moyens de transport, machines à se déplacer. Ici, par exemple, il n'a cessé de penser aux siens. Alors, la nuit, il visitait une colonie d'oiseaux. Donc ça, on peut penser que c'est dans le rêve, pourquoi pas. Et ces oiseaux avaient l'air un peu de le repousser. Hein, il y avait une animosité perceptible, comme s'il était un congénère de basse race, c'est-à-dire comme s'il était d'une race inférieure aussi, hein, je veux dire. Alors, Will McGrodno s'agitait sur sa paillasse, donc sur son lit, il se réveillait, la sueur coulait, et les rêves ne distillent leur secours qu'au compte-goutte. C'est-à-dire que, dans son cas, les rêves ne servent pas très bien à réussir quelque chose. Mais on verra d'autres occasions où les rêves peuvent servir à quelque chose. Pourtant, c'était un petit peu ce qui était annoncé à la page 13. En bas de la page 13, le petit paragraphe en bas de la page, tapis à champ rouge, derrière ces carreaux fendus d'étoiles d'araignées, il essaye de rejoindre son groupe par le chemin des rêves. Il s'imagine qu'il réussira à rétablir, en dormant, le conflit. Alors, dans ces deux phrases, il y a deux métaphores différentes. D'abord, le chemin des rêves, c'est-à-dire les rêves comme un chemin. On peut considérer que c'est une métaphore, et ce n'est pas un moyen d'aller quelque part. Mais si on pense justement à l'idée du zeugma, est-ce que ça pourrait pas être un vrai chemin? C'est-à-dire, de la même façon que je peux aller à Shinjuku par le métro ou par le JR, je peux penser aussi que je vais y aller par le rêve. Oui. Et là, on retrouve d'autres choses de la science-fiction, hein, qui s'appellent téléportation. On a vu ça depuis longtemps, hein, même à la télévision. Alors, en général, il y a une machine. Hein. Quelqu'un entre dans une machine et ça se ferme, on appuie sur des boutons, il y a des trucs électriques, comme ça, et puis, hop, téléportation, et on a fait plusieurs milliers de kilomètres, ou de dans le temps aussi, hein, d'années en avant ou en arrière. Donc, le transport dématérialisé du corps et qui va se rematérialiser ailleurs ou dans un autre temps. C'est un vieux rêve, hein, des êtres humains, et l'idée ici du chemin du rêve, on ne sait pas très bien si on doit le considérer comme quelque chose de sérieux ou pas. Et juste après, une deuxième métaphore, celle de rétablir le contact. Alors, rétablir le contact, ça n'est pas une téléportation, c'est une télécommunication. On a un téléphone, on a un talkie-walkie, on a quelque chose qui permet de contacter quelqu'un. Et je crois que cette expression, d'ailleurs, rétablir le contact, ça signifie qu'on a perdu le contact. Donc, encore avant, on avait le contact. Ce qui veut dire que il faut penser à une situation où on avait le contact et on a perdu le contact. Par exemple, une situation de guerre où l'ennemi a réussi à détruire des installations de télécommunication, où l'ennemi a réussi à brouiller le message avec des fréquences. Ce sont des choses tout à fait courantes. Par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, et puis de cette longue période après la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle aussi la Guerre froide, hein, The Cold War. principalement entre États-Unis et Russie, mais dans laquelle tous les autres pays sont entraînés. Hein, il fallait être d'un côté ou de l'autre. Donc ce vocabulaire est différent. Le chemin des rêves, c'est une sorte de métaphore un peu poétique, surréaliste, picturale. En revanche, rétablir le contact, c'est une métaphore qui est plutôt du domaine de la lutte, de la guerre, de la résistance, de la guérilla, etc. Donc, des vocabulaires différents qui renvoient à des activités très différentes. Et la même idée, une même idée, que l'on peut utiliser le rêve pour faire quelque chose qui est une action dans le monde normal, en dehors du rêve. Donc, j'ai besoin de prendre contact avec quelqu'un, mais là, je ne peux pas le faire parce que les installations ne marchent plus. Donc, je vais essayer de dormir et de rêver pour entrer en contact avec cette personne. Je ne sais pas si vous pensez que c'est possible. J'ai une petite tendance à penser que c'est pas possible. Mais si c'était possible, ça serait extraordinaire. Il y a une sorte, en même temps, de désir d'enfant que ça soit possible. J'aimerais. Hein. Et je crois que souvent, Volodine joue un petit peu comme ça avec, bien sûr, les situations, les vocabulaires du monde réel et dur et catastrophique dans lequel nous vivons, nous avons vécu. Et en même temps, des choses tout à fait d'enfant, des désirs que nous avons en nous et qui, en général, ne sont pas très bien exploités par la littérature. On dit, bon, littérature, c'est sérieux, il faut dire des choses sérieuses. On ne peut pas dire qu'on va entrer en contact avec quelqu'un en passant par le rêve. Hein, c'est ridicule. On n'imagine pas, par exemple, Sartre essayant de mettre des personnages en contact par leur rêve. Ce côté réaliste du roman ne peut pas s'accorder avec ces possibilités surréalistes. Alors ce surréalisme qui est typiquement du XXe siècle, hein, vous connaissez André Breton, le surréalisme, et avant le surréalisme même, le mouvement Dada, hein, qui est très important aussi. Et pour autant, ça n'était pas le début de l'utilisation de possibilités de rêve. Chez les poètes, on trouve cela depuis toujours. Et c'était pas du tout nouveau. Mais pas seulement chez les poètes, et même chez Balzac, que l'on considère parfois comme un grand réaliste, il y a des contes fantastiques. Et dans ces contes fantastiques de Balzac, il se passe des choses pas du tout normales dans le monde réel. Donc, c'est une déformation, je crois, d'une partie du 19e et du 20e siècle de penser que on doit faire des romans réalistes où tout doit être possible, réel, dans notre monde. Mais, bon, le surréalisme, comment ça s'appelle, le réalisme magique de la fiction sud-américaine, mais également de la fiction japonaise, on le voit avec le succès de Murakami maintenant dans le monde entier, et aussi en France, où il y a un univers tout à fait réel, mais dans lequel, de temps en temps, il se passe des choses pas normales. Et tout le monde s'est habitué à ça. Donc c'est un peu dans ce domaine que nous devons penser le texte, le genre de texte de Volodine. Une ou deux dernières choses sur ces 30 dernières pages. D'abord, à la page 15, le cirque. C'est donc également une histoire de clown, une histoire d'un clown, qui travaille au cirque Vanzetti et qui a conçu une phobie à l'égard de tout ce qui concerne la mort. Alors, là encore, c'est le nom de Vanzetti qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de Vanzetti. Vanzetti, ça vous dit quelque chose ?
Sacco et Vanzetti.
Sacco et Vanzetti. Tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie ces deux noms ensemble. Il y a un film qui a été assez populaire dans les années 70, un film italien qui s'appelle Sacco et Vanzetti, dont un des deux acteurs a gagné le prix d'interprétation à Cannes en 1970 ou 71, je ne sais plus. Et puis, si on a un peu plus de connaissances, qui c'était alors Sacco et Vanzetti ? Au-delà des noms, vous savez qui c'était Sacco et Vanzetti ?
Dans les années 30 ou
40. Mm-hmm. Les années 20.
Italie.
Italienne, oui. Oui.
Exécuté,
oui, oui, c'est vrai.
À cause de. Je sais pas.
Oui. En fait, ils étaient plutôt anarchistes.
Anarchistes.
Mais bon, c'est un peu la même chose. pour le juge américain hein, qui les a condamnés, c'était un peu la même chose. Et ils étaient vraiment coupables alors ?
Non.
Voilà, c'est ça, je crois, le point important. Ça vous rappelle des choses ou pas du tout ? Non ? Également, il y a une chanson très connue de Joan Baez. Et donc, si je vous la chante un peu, vous allez la reconnaître. Here's to you, Nicola and Bart. C'est d'ailleurs une chanson qui a été composée pour le film et la musique de ce film était composée par Ennio Morricone, très connu pour des dizaines de films, très connus eux aussi. Voilà, donc si vous trouvez un moment d'ici quelques temps pour chercher ce film, ça peut être intéressant de le voir. Mais même par internet, sur YouTube, vous trouverez des résumés du film, des montages documentaires avec des photos, des documents de l'époque pour reprendre cette histoire. Alors, on se cultive un petit peu. Hein, on va voir dans l'encyclopédie, on ramasse des informations et après on se demande, est-ce que Volodin a vraiment pensé au Vanzetti de Sacco et Vanzetti en donnant ce nom au cirque ou bien est-ce qu'il a chercher 3 secondes dans sa tête un nom un peu italien et qu'il a collé comme ça. Alors pour un nom un peu italien, il existe un vrai clown et nom de cirque qui s'appelle Zavatta, qui est très connu en France. C'est un artiste de cirque qui s'appelle Achille Zavatta et qui est mort en 1993. Donc, je me rappelle l'avoir vu à la télévision, par exemple. Bon. Donc, ce nom de Zavatta et Vanzetti, vous voyez, il y a quand même une forme hein, qui se répète. Alors, Volodine a pu penser à Zavatta et simplement démarquer en choisissant Vanzetti. Mais, pourrait-il y avoir une raison particulière d'avoir choisi Vanzetti ? Alors, comme disait monsieur à l'instant, Sacco et Vanzetti, deux émigrés italiens arrivés peu d'années avant aux États-Unis, commencent à travailler, se font naturaliser américains et, peu de temps après, arrêtés, accusés d'attaque de banque, de l'assassinat de deux employés de banque ou policiers, je ne sais plus exactement. Et plusieurs années après, donc arrêté en 1920 et exécuté sur la chaise électrique en 1927. Donc, il y a quand même 7 ans entre les deux. Et pendant 7 ans, un grand mouvement de protestation, de solidarité, je ne sais pas si on peut dire solidarité, en tout cas protestation, nationale et internationale, pour sauver Sacco et Vanzetti. Alors pourquoi les sauver, hein, s'ils sont coupables? Eh bien parce que on pouvait savoir, en faisant correctement une enquête et un procès, on pouvait savoir qu'ils n'étaient pas coupables. Et le juge américain, ça a été reconnu après, qui était tout à fait raciste et conservateur, au sens où il faut protéger la population et l'identité, entre guillemets, américaine, détestait les immigrés italiens ou autres, mais également les syndicalistes, les communistes, les anarchistes, tous ceux qui, juste après la Première Guerre mondiale, essayaient de faire se développer un mouvement ouvrier pour la défense des droits, juste après la guerre, où on avait demandé beaucoup à tout le monde. Donc, pendant la Première Guerre, les gens ont souffert et ils ont pensé que, quand la guerre était finie, c'était peut-être le moment de profiter, le moment où le pays pouvait nous redonner quelque chose. Et en même temps, alors, une chose qui a pesé aussi dans le procès de Vanzetti, juste après avoir été naturalisé américain, il y a eu au niveau national une levée de conscription. C'est-à-dire, on a demandé à tous les jeunes gens d'un certain âge américain de venir dans l'armée pour participer à la guerre en Europe. Alors ce pauvre garçon qui arrive d'Italie, qui souffre de pauvreté, d'immigration illégale, de clandestinité, enfin, des choses comme ça, bon, réussit à se faire naturaliser américain et juste après il faut partir à la guerre. C'est trop triste. Alors il s'est enfui au Mexique, mais ça correspond à une désertion, déserteur par rapport à la loi du pays. Bon, ça pèse aussi très lourd dans le procès. Et puis, quelques temps avant l'exécution de Sacco et Vanzetti, un troisième homme de sa prison, où il était déjà condamné, a dit que c'était lui qui avait attaqué cette banque et tué ces deux hommes. Donc, la preuve, entre guillemets, la preuve était faite par les aveux de l'autre, mais le juge américain n'a pas changé sa décision et Sacco et Vanzetti ont été exécutés. En 1997, donc 70 ans après, un juge américain de l'État du Massachusetts a publié un rétablissement de la dignité de ces deux hommes, qui est devenu un document officiel reconnaissant que l'État américain avait fait une erreur judiciaire. Et... alors, si ça n'était qu'une erreur judiciaire, je ne pense pas que ça intéresse particulièrement Volodin. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'origine des deux individus, leur appartenance à un mouvement syndicaliste, anarchiste, de contestation, de lutte contre le pouvoir toujours monstrueux, hein, c'est une façon de voir, hein, le pouvoir, fiction aussi. Et en même temps, le mouvement international de soutien autour de ces deux figures. Je crois que c'est ça qui intéresse Volodin dans la récupération et le détournement du nom de Vanzetti. Devant son juge, un peu avant son exécution, Vanzetti s'est levé dans la salle du procès et il a déclaré « Si cette chose n'était pas arrivée, cette chose, ce procès, cette situation, j'aurais passé toute ma vie à parler au coin des rues, à des hommes méprisants. J'aurais pu mourir inconnu, ignoré, un raté. Ceci est notre carrière et notre triomphe. Jamais dans toute notre vie, nous n'aurions pu espérer faire pour la tolérance, pour la justice, pour la compréhension mutuelle des hommes, ce que nous faisons aujourd'hui par hasard. Nos paroles, nos vies, nos souffrances ne sont rien. Mais qu'on nous prenne nos vies, vie d'un bon cordonnier et d'un pauvre vendeur de poissons, c'est cela qui est tout. Ce dernier moment est le nôtre. Cette agonie est notre triomphe. Parole qu'on retrouve dans la chanson, donc, Here's to you, Nicolas and Bart, rest forever here in our hearts, dans nos cœurs. The last and final moment is yours, c'est le vôtre. That agony is your triumph. Et ce sont ces paroles, et uniquement ces paroles, qui sont répétées plusieurs fois tout le long de la chanson. Il n'y a pas d'autres paroles que celles-ci. Et je crois que c'est ça qui intéresse Volodine, cette possibilité que deux hommes les plus banals, les plus pauvres du monde, soient d'un seul coup chargés de représenter l'espèce humaine au moment d'une erreur judiciaire contre le monstre qui incarne le pouvoir, aveugle, méchant, et qui est le juge américain. Bon, si vous trouvez du temps pour aller voir Sacco et Vanzetti, par ailleurs, ça vous en dira beaucoup sur ce qui se passe dans cette histoire et dans cette ville de Champs-Rouge, par ailleurs. Alors, page 16... Le quatrième paragraphe, le dernier paragraphe en bas de la page. Et déjà plusieurs histoires n'en font qu'une. Baxir ou Bachir Kodek a longtemps partagé sa roulotte avec un autre forain, comme lui célibataire, un ami, un confident, un homme de cirque, mais celui-là, Bouderbichvili, était à peu près insensible à la peur. Donc, là encore, deux personnages se retrouvent. Le clown du cirque Vanzetti, qui s'appelle Bachir Kodek, et Bouderbichvili, celui qui fait partie des trois prisonniers qui sortent de prison et qui était, donc avant la prison, un lutteur de foire. On appelle ça un lutteur de foire, une sorte d'homme très fort qui va se battre avec des gens qui se présentent dans la foule et qui pensent pouvoir le battre. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce Bouderbichvili? C'est expliqué en bas de la page 17. Donc, il soulevait des poids et puis il se battait avec des gens de l'assistance. Un jour, c'est les trois dernières lignes de la page 17, un jour, un des colosses qui assurait la protection d'une huile frondiste. Une huile, ça veut dire un personnage important. Un des principaux dirigeants. On appelle ça une huile. Frondiste, donc de ce parti, de ce groupe politique, un gros musclé frondiste est venu fanfaronner sur le tapis. Par maladresse, alors que l'autre, en mauvaise posture, cherchait à l'agripper au bas-ventre, ce qui n'est pas très correct dans la lutte, Bouderbichvili lui a broyé la nuque avec son coude. Il lui a paralysé à jamais la moitié droite du corps, le rendant impropre à la fanfaronnade. L'accident a eu droit à la première page d'un quotidien du soir. Peu indulgent, le tribunal a envoyé Bouderbichvili pour 6 ans dans la prison centrale de Champs-Rouge. Le cirque Vanzetti, lui aussi, a été reconnu coupable. Encore maintenant, il verse à la caisse de solidarité du parti une lourde indemnité qui grève, mois après mois, son budget. Qui grève, c'est-à-dire qui pèse lourd sur le budget du cirque. Aram est le nom de ce lutteur malchanceux. Voilà donc ce qui s'est passé avec Boudère-Bichvili et en même temps avec le cirque. Hein, donc on voit que le cirque est devenu un pauvre cirque endetté et qui ne dépend que de la décision du gouvernement de le condamner ou pas. Ce n'est pas un cirque libre, ça n'est plus un cirque libre. On arrive à l'histoire d'un violoncelliste et puis d'une altiste. Alors, à la page 19, on voit qu'elle s'appelle Tchaki Esterkhan. Esterkhan, on reconnaît là des parties de noms tout à fait juifs. Et d'ailleurs, Esterkhan en deux mots, c'est-à-dire Esther comme prénom et Khan comme nom de famille, est le titre d'un film qui est paru en 2000, bien après ce livre, qui est un film de, comment il s'appelle, Desplechin, qui est déjà venu ici, qui a présenté des films au Japon, Arnaud Desplechin, et un film qui est ici à la médiathèque d'ailleurs, que j'ai emprunté il y a quelques mois, qui s'appelle Esterkhan, et qui présente le destin d'une jeune femme juive, un film assez beau. Mais évidemment, je ne pense pas que Arnaud Desplechin ait pensé à Volodine, mais simplement inventer un nom dont les consonances, les origines juives soient tout à fait évidentes. Donc, Tchaki Esterkhan. En même temps, il n'est jamais écrit dans le livre qu'elle est juive ou quoi que ce soit, hein, d'une religion. C'est le nom qui nous fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est le lecteur, et seulement le lecteur, qui pense à ça. Ça n'est jamais écrit dans le texte, comme pour les autres, d'ailleurs. Alors, cette Tchaki Esterkhan, apparemment, c'est pas une très très jolie fille, mais elle a quelque chose de particulier. Elle est très très douée lorsqu'elle joue du violon alto, et particulièrement en solo, donc le titre la concerne directement. Hein. Elle joue avec ses camarades dans le quatuor, qui s'appelle le quatuor Gilas, et de temps en temps, les autres s'arrêtent et elle fait un solo. Et dans ces solos, elle a adapté des compositions de musiciens qu'elle aime, sur lesquelles elle fait des variations. Et ces variations sont très très belles pour tout le monde, même si elle n'est pas extrêmement douée pour interpréter, elle a ce qu'on peut appeler la grâce musicale qui va toucher les spectateurs. Alors ici, il y a une petite différence que vous connaissez certainement dans la musique entre ce qu'on appelle, comment on appelle ça le fait de jouer parfaitement d'un instrument. Virtuose, exactement, merci. De temps en temps, il y a des mots qui m'échappent comme ça. La virtuosité, d'un côté, et de l'autre côté, la grâce. Alors, la grâce, c'est vocabulaire un peu catholique, hein, donc il faut se méfier du sens que ça peut vouloir dire, mais bon, il se trouve qu'on utilise ces deux mots. La virtuosité, c'est la maîtrise parfaite de l'instrument, mais qui parfois donne un sentiment froid. Les spectateurs, c'est parfait, mais ça ne me touche pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et à côté, on va entendre quelqu'un qui joue d'une façon pas parfaite. On peut entendre que parfois c'est bon, mais il y a quelque chose qui nous touche, qui nous apporte une émotion extraordinaire. On appelle ça la grâce ou l'état de grâce musicale. J'ai déjà entendu des amateurs d'opéra, hein, par exemple, dire que tel chanteur ou telle chanteuse a une voix parfaite, mais ça n'est pas émouvant. Et un autre qui n'a pas une voix parfaite, mais qui apporte de l'émotion. Donc, ces deux choses sont très importantes. Et Tchaki n'est pas parfaitement virtuose, mais elle a une certaine grâce qui touche beaucoup et qui, comme j'ai utilisé le mot grâce, il faut voir comment Volodine transcrit cela dans son langage, en bas de la page 20. Donc Tchaki Esterkhan portait une jupe noire très simple, un chemisier sobre, elle n'abusait pas du vibrato, À ses gestes ne se mêlait rien de superflu, l'austérité de son attitude abolissait la notion de spectacle et aidait à pénétrer au cœur miraculeux de la musique. Donc la grâce est devenue le cœur miraculeux. Le cœur comme centre, mais également comme quelque chose de vivant. Donc, encore le double sens ici utilisé. Dimitri Makionian essayait de se convaincre que l'alto s'adressait à lui, exclusivement à lui, et que Tchaki Esterkhan puisait la magie de son inspiration dans le souvenir de plusieurs nuits tendres qu'ils avaient passées ensemble. Ah oui, ça arrive, entre musiciens, dans les hôtels, pendant les tournées. De leur côté, les violonistes se mordaient les lèvres afin de dissimuler au public leur exaltation ou leur trouble. Ils pensaient être les destinataires de ces lettres d'amour, de ces flammes chromatiques, de ces cadences, plagales ou non, de cet envol. Mais elle, Tchaki Esterkhan, ne se remémorait pas un instant ses collègues et camarades, les trois hommes qui derrière elle religieusement l'admiraient. Elle n'évoquait pas ce qui, outre la musique, les liait, cette existence amicale, etc., etc. Elle, donc un peu plus bas, elle voguait jusqu'à des univers décalés, moins quotidiens. Univers décalé, c'est une très très belle expression. Elle y retrouvait un oiseau qu'elle avait connu avant la fondation du Quatuor, avant les voyages, les contrats, le nomadisme. Elle l'avait rencontré et adulé à l'époque où elle étudiait encore au conservatoire. L'oiseau était affublé d'un drôle de nom, Kirgil Karakassian. Après un été de passion, il avait disparu. De lui, Tchaki Esterkhan n'avait plus reçu la moindre nouvelle, mais elle ne pouvait se résoudre à imaginer qu'il l'avait laissé pour une autre. Impuissante à rien savoir sur ce sujet, elle redoutait en secret une explication plus tragique. Kirgil Karakassian parlait souvent d'aller guerroyer contre le frondisme, là où le combat n'était pas perdu d'avance comme ici. Peut-être avait-il eu l'occasion de franchir la frontière qui sépare des intentions les actes. Et peut-être gisait-il là-bas, dans les tranchées, parmi les débris de bombes, sous la poussière. C'est donc ça qui se trouve au cœur de la musique de Tchaki Esterkhan, la pensée d'un homme qu'elle a aimé et qu'elle a perdu, et qu'elle imagine perdu pour une cause plus grande qu'elle, plus grande qu'eux, qui est la lutte contre le frondisme, en ayant passé la frontière au sud. On a plusieurs fois déjà parlé de ce sud mythique, là où la guerre peut encore servir à quelque chose. Apparemment, ici, à Champs-Rouches, toute résistance est inutile. Tout rêve de changement, de transformation est impossible. Mais là-bas, au sud, quelque part, il y a encore des gens qui luttent, qui se battent et qui réussissent à gagner de temps en temps contre le frondisme. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'en sait rien. C'est un espoir qu'il y ait un sud où il est possible encore de gagner, même si c'est pas complètement, même si c'est que un peu de temps en temps. Et ici, à Champs-Rouches, c'est tout à fait impossible. Alors, peut-être que par la musique, Tchaki Esterkhan résiste encore quelque chose contre le frondisme. Il va falloir en parler de ce frondisme, hein. On n'a pas dit grand-chose jusqu'à maintenant. Mais, encore une chose, à propos de ce Karakassian. Donc, Tchaki Esterkhan a aimé un homme, un oiseau, c'est pas très bien, hein, comme d'habitude, qui s'appelle Kirgil Karakassian, et ce Karakassian, c'est un nom d'origine arménienne, hein, comme beaucoup de noms en sian, assian, ossian, comme le caviar, pétrosian, aussi arménien. Bon. Donc arménien, russe, hein, c'est aussi repris dans, la République soviétique. Mais également, ce caracassian m'a fait penser à autre chose. Et là, il faudra que j'interroge un jour Antoine Volodine à ce sujet. Car il y a un petit livre d'un écrivain que tout le monde connaît, qui s'appelle Georges Perec. Un petit livre qui est son deuxième livre et dont le titre est assez amusant. Le titre, c'était « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?» Point d'interrogation.
Donc, Georges Perec.
Georges Perec, qui était de famille juive, dont les parents ont été déportés et sont morts en déportation, après être d'ailleurs immigré aux États-Unis pour certains d'entre eux, dont sa famille, et donc également passé au centre de tri des immigrés américains, qui est la petite île de Ellis Island au large de New York. Tous les étrangers qui arrivaient aux États-Unis, jusqu'à je ne sais quelle date exactement, étaient débarqués sur cette île de Ellis Island, où il restait quelques jours pour les formalités d'entrée aux États-Unis. Et Georges Perec a écrit sur Ellis Island, et il a même fait un film qui doit se trouver quelque part dans la médiathèque sous le nom de Ellis Island, donc au sujet de ces immigrés, où on se rapproche un peu de Sacco et Vanzetti d'ailleurs, qui était passé par Ellis Island, eux aussi. Et Georges Perec a publié donc, en quelle année était-ce, 1966, je crois que c'est son deuxième livre. Le premier livre c'était Les Choses, très connu aussi. Deuxième livre, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour. Et alors dans ce petit livre très amusant, un peu, ça fait penser un peu à Boris Vian aussi, dans le style un peu comique, mais avec des clés ou bien des formes de construction assez originales. Et alors, un des personnages de ce livre s'appelle Cara quelque chose. Et son nom change à chaque fois qu'il est écrit. Mais ça commence toujours par Cara. K-A-R-A. Et donc il s'appelle Caramanlis, Karatchak quelque chose, Karatruc, Cara tout ce que vous voulez. Et on s'est demandé, qu'est-ce que ça veut dire, de la part de Georges Perec. Est-ce que c'est seulement un jeu? Ou est-ce que ça se rattache à des traditions, des situation. Je vous laisse regarder dans Perec et dans les études perecciennes, mais ce caracassian m'a fait penser aux autres caras, qui sont presque tous juifs, dans le livre de Perec. Et dans ce livre de Perec, il est question d'un jeune homme qui est au service militaire et qui doit partir à la guerre en Algérie. Donc on se trouve dans une situation aussi où il faut partir au sud, sur le front, pour faire la guerre. Donc il y a comme ça des ressemblances qui ne sont pas clairement écrites et le lecteur y pense ou n'y pense pas. Tout est flou. On parlait tout à l'heure de fuzzy en anglais, c'est flou, comme ça. Donc voilà un caracassian. Alors je pense vous avoir un peu aidé à vous débrouiller dans ces premières pages et on va maintenant aborder, disons, la fin de l'exposition, la fin de la présentation des personnages. Il y a également un voleur de chevaux qui s'appelle Bieno Amirbekian, qui est en fait le frère de l'autre Amirbekian. Donc ça se rattache comme ça, progressivement. Et puis, à la page 26, première ligne, premier mot, vous avez le mot « je ». Alors là, on a un petit choc, hein, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de « je ». Et d'un seul coup, quelqu'un dit « je me rappelle ». D'ailleurs, il y a un texte de Pérec très connu qui est « je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens ». Bon, il n'y a pas de rapport, je pense, mais il finit par y penser. « Je me rappelle Matko Amirbekian comme si c'était hier, 23 ans, un air d'adolescent ». Donc, le narrateur qui dit « je » connaissait ce personnage, Matko Amirbekian. Ça veut dire que ce narrateur qui dit « je », qui ne s'est pas encore présenté, il fait partie de ce monde. Il n'est pas un narrateur en dehors qui raconterait comme ça cette histoire. Il est impliqué, lui aussi, dans cette histoire. On ne sait pas tout à fait de quelle façon. Alors, on va voir très bientôt un autre personnage qui va se présenter à la page 31. Et nous aurons la possibilité, assez rapidement, de penser, là encore, même si ça n'est pas écrit, nous aurons la possibilité de penser que le « je » qui s'est exprimé ici, à la page 26, et le personnage qui est présenté à la page 31, sont peut-être la même personne. Mais là encore, rien n'est sûr. C'est une possibilité. Je vous lis ce paragraphe, ou ces deux paragraphes, ils sont très importants pour comprendre comment se déroule notre histoire, donc à la page 31. Troisième ligne. L'histoire se complique parce qu'il s'y mêle un écrivain, Yacoub Kadjbakirou, et que, lorsque le monde lui déplaît sous tous ses angles, l'écrivain, sur le papier, métamorphose le tissu de la vérité. Il ne se contente pas d'énoncer sur un ton d'amertume dépité ce qui l'entoure, il ne reproduit pas trait pour trait l'élémentaire brutalité, l'animal tragédie à quoi se réduit le destin des hommes. S'il procédait ainsi, il se dégoûterait vite, il se lasserait. Il composerait seulement de petits tableaux anecdotiques. Il étofferait médiocrement la médiocre réalité. Il n'éprouverait aucun plaisir à son art et vite cesserait d'écrire. Au lieu de cela, il choisit de la vie réelle les brins les plus ténus, ombres et harmoniques. Et à ses souvenirs, il les entremêle. À des visions qu'il a eues pendant son sommeil et qu'il chérit, à son passé, il les entrelace. Aux impatiences, aux erreurs, aux croyances déçues de son enfance. Selon son humeur, il reconstitue et remodèle dans sa tête ce qu'il a vu. Au hideur de l'actualité, Yacoub Kadjbakirou avait coutume, dans ses livres, de substituer ses propres images absurdes, ses propres hallucinations partiales, inquiétantes et inquiètes. La plupart du temps, mais pas toujours, évidemment, il obéissait à des règles logiques. Il dépeignait le monde contemporain. Sur les mots, il réfléchissait son expérience personnelle. Il scrutait sa génération, celle qui s'était sabordée dans la veulerie et les renoncements. À son avis, les rêves contenaient des clés indispensables pour comprendre l'état du monde, pour apprécier les données de l'époque historique, le niveau moral auquel l'humanité stagnait depuis des siècles. C'est pourquoi, en son analyse des choses, il incluait de vastes portions oniriques de l'univers. Sur ses portraits d'hommes et de femmes, il greffait des comportements somnambulaires, des modes nocturnes de pensée. À ses personnages, il prêtait des dessins saugrenus, proches de la folie. Yacoub Kadjbakirou semblait travailler sur d'abstraites fantasmagories. Mais soudain, ces mondes parallèles, exotiques, coïncidaient avec ce qui était enfoui dans l'inconscient du premier venu. Soudain, par le souterrain des mirages, on débouchait sur la place principale de la capitale. On se retrouvait bel et bien à Champs-Rouges, avec sa vie quotidienne, touffue, banale, et avec les millénaires cancers toujours actifs en chacun, les millénaires barbaries, les millénaires reculades. Exotique est le terme que l'on applique à des particules déconcertantes, mais fondamentales, de la matière. Bon, on va commenter déjà ces deux paragraphes, difficiles dans leur concentration, mais extrêmement révélateurs. En fait, c'est une sorte d'art poétique, au sens où, depuis très longtemps, les poètes ou les écrivains ont parfois exposé leur méthode. Voilà ce qu'est ma méthode, et voilà pourquoi je travaille comme ça. On appelle ça un art poétique. L'écrivain, le poète, dévoile son art poétique. En même temps, cet art poétique de Yacoub Katzbakiro, qui est donc un personnage du livre d'Antoine Volodine, on pourra penser que par beaucoup de côtés, c'est également l'art poétique d'Antoine Volodine lui-même. C'est-à-dire que Antoine Volodine, lui aussi, de notre monde, ne décrit pas exactement la réalité, mais il prend des petites choses qu'il mélange d'une certaine façon, et puis d'un seul coup, on se retrouve dans la réalité, alors qu'on se croyait dans la science-fiction, par exemple. Et donc cet art poétique a en même temps valeur de mise en abîme. Et une mise en abîme, parce qu'il y a plusieurs sortes de mise en abîme. On a une mise en abîme de l'histoire, mise en abîme d'un personnage. Mais là, on a une mise en abîme de l'art poétique lui-même. Donc, les spécialistes, si vous voulez, de critique littéraire, ont nommé cette sorte de mise en abîme transcendantale. Parce que, justement, elle transcende la limite de la fiction pour être en même temps la mise en abîme de l'art poétique lui-même. Transcendantal. Dans le bon sens, vous avez ça. Alors, cette présentation de Yacoub Katzbakiro, elle commence par l'histoire se complique. Ce qui veut dire que jusqu'à maintenant, l'histoire était relativement simple. C'est vrai, après tout, hein. On vous a proposé trois prisonniers qui sortent de prison, deux oiseaux, deux musiciens, un clown de cirque. Bon, avec tout ça, n'importe qui peut faire un roman ou un film, hein, après tout. Mais d'un seul coup, on a un autre personnage qui arrive, et ce personnage qui est peut-être aussi celui qui écrit, donc ça complique un peu les affaires. Alors Yacoub Katzbakiro, le nom lui-même, Yacoub, c'est une forme, d'Europe de l'Est, hein, de Jacob. Jacob, Yacob, Yacoub. Bon, on va en trouver un peu dans tous les pays, sous des formes et des graphies différentes. Quant à Katzbakiro, je n'ai rien trouvé de spécial. Et d'ailleurs, dans un entretien que Volodine a accordé à un journaliste en 2008, donc il n'y a pas très longtemps, Volodine a dit que Katzbakiro était l'auteur du livre. Bon, Katzbakiro est l'auteur du livre. Et pourtant, c'est marqué Antoine Volodine. C'est-à-dire que c'est un peu le même, quoi. On doit comprendre comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme il a dit ici, l'écrivain sur le papier métamorphose le tissu de la réalité. Et on a plusieurs négations. Comme tout à l'heure avec Tchaki et Sterkan, on a vu qu'elle ne jouait pas pour un musicien. Elle ne jouait pas pour l'autre musicien. Elle ne jouait pas pour. Donc on a commencé par plusieurs négations et après on a une affirmation qui est en quelque sorte une révélation, un dévoilement de la vérité. Donc là aussi, on commence par plusieurs négations, ce que Kachbakiro ne fait pas, ce pourquoi il n'écrit pas. Il ne se contente pas, il ne reproduit pas, et d'ailleurs on explique ensuite, s'il faisait comme ça, donc on a des verbes au conditionnel, très clairement, ça n'est pas la réalité. S'il procédait ainsi, il se dégoûterait, il se lasserait, il composerait seulement des petits tableaux, deux petits tableaux anecdotiques, étofferait médiocrement la médiocre réalité. Donc on a la répétition de médiocre et médiocrement pour montrer que cette façon peut-être d'écrire des livres, de raconter des histoires, est considérée par Kachbakiro, par Volodine, comme médiocre. Alors, en même temps, c'est une attaque. C'est une attaque contre certains écrivains qui écrivent justement comme ça. C'est-à-dire qui écrivent pour raconter la réalité brute. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. On peut aimer aussi le roman tout à fait réaliste. Parfois aussi on dit le roman nombriliste. Celui qui ne raconte que sa propre petite histoire. Bon. Et puis il y a certainement des œuvres très intéressantes aussi dans ce domaine. Mais il y a une telle quantité de romans réalistes qui ne servent à rien que, en tout cas, Kachbakiro considère comme médiocre. Et d'ailleurs, il n'éprouverait aucun plaisir et il arrêterait. On en arrive donc après ces négations à ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Au lieu de cela, il choisit de la vie réelle les brins les plus ténus. Bon, on comprend les brins, hein, c'est-à-dire les fibres, les plus ténues, les plus fins. Donc au lieu de s'intéresser aux grosses choses qui sont là devant nous, il prend des choses très très fines, très très petites. Et il va les tirer comme ça, un certain nombre, hein, les tirer, les rassembler. Ce qui m'intéresse aussi ici, dans sa phrase, c'est l'inversion. Alors j'ai dit tout à l'heure, il y avait négation et après l'aspect positif ou affirmatif. Et maintenant, il y a une autre forme de construction des phrases, qui est l'inversion entre le sujet et le complément. Et il y en a plusieurs, juste l'un après l'autre. Alors pour vous, en tant que lecteur japonais, je pense que vous les remarquez bien, parce que vous devez toujours chercher quel est le sujet, quel est le complément, puisque c'est différent du japonais. Et là, vous voyez que, tiens, ça revient un peu dans le sens du japonais, peut-être, hein, dans un certain sens. Alors, il choisit de la vie réelle les brins les plus ténus. Donc, si on écrivait normalement en français d'aujourd'hui, on devrait dire « il choisit les brins les plus ténus de la vie réelle hein, ». Donc « vie réelle », non, « brins les plus ténus ». Et là, on le retrouve à l'envers, « de la vie réelle, les brins les plus ténus ».« Ombres et harmoniques », donc ce sont des qualifications, « et à ses souvenirs, il les entremêle ». En français normal, on dirait « il les entremêle à ses souvenirs ». Donc on a mis « à ses souvenirs » avant. Hein, donc antéposition de complément et postposition de sujet. Donc par exemple, dans la phrase classique « sujet, verbe, complément », et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Donc il va mettre le complément devant et le sujet derrière. De cette façon, d'ailleurs, on retrouve la phrase de l'ancien français, telle qu'on le trouve dans les textes du XIVe, XVe siècle, encore. Et, ou bien dans un groupe nominal, on a nom de nom, hein, donc c'est un complément de nom, et il va essayer de le renverser comme ça, en mettant de nom, nom. Hein, donc il se déplace comme ça. Ça aussi, c'est une construction ancienne. Les deux possibilités, d'ailleurs, venant aussi du latin, où c'était des constructions tout à fait normales. Alors, est-ce que c'est une volonté de faire vieux, de faire archaïque, ou une sorte d'académisme déplacé, ou bien est-ce que c'est une volonté de mettre en valeur quelque chose ? C'est-à-dire, ce qui normalement est derrière, lorsqu'il est mis devant, il se trouve mis en valeur. Et ce qui est normalement devant et qui va derrière se trouve un peu dévalué. Donc, il y a peut-être cette volonté-là. Revoyons comment ça se passe. Donc, au lieu de cela, il choisit de la vie réelle les brins les plus ténus. Hein, on est dans cette construction ici, de la vie réelle, les brins les plus ténus. Et puis, ombre vernie, et à ses souvenirs, il les entremêle. Donc, il les entremêle à ses souvenirs. Bon, ce n'est pas le complément d'objet direct, hein, c'est le complément d'objet indirect, mais c'est le même principe. Et il continue, à des visions qu'il a eues pendant son sommeil et qu'il chérit, à son passé, il les entrelace. Aux impatiences, aux erreurs, aux croyances déçues de son enfance. On pourrait répéter d'ailleurs, il les entrelace encore. Donc on a une construction qui ressemble d'ailleurs un petit peu à des constructions de Apollinaire, hein, parce qu'on parlait tout à l'heure du pont Mirabeau. Apollinaire affectionnait beaucoup ce retour à la phrase de l'ancien français avec antéposition du complément. Donc évidemment, c'est une construction poétique, littéraire, dans sa tête, et à partir de petits éléments de la réalité, mélangés avec des rêves, des fantasmes, des choses personnelles. Je crois que c'est ce que font tous les écrivains, plus ou moins, tout de même. Hein. La plupart des écrivains doivent faire quelque chose comme ça, mais voilà, précisément en détail. On continue avec des inversions. À la phrase suivante, au hideur de l'actualité, Yacoub Kadjbakiro avait coutume de substituer ses propres images absurdes. Donc on pourrait dire, en français normal, disons, Yacoub Kadjbakiro avait coutume de substituer ses propres images absurdes au hideur de l'actualité. Alors voyez bien, le fait d'avoir « au hideur de l'actualité » au début de la phrase est beaucoup plus fort qu'en fin de phrase. Hein, même au niveau sonore, hein, écoutez la différence entre les deux. Yacoub Kadjbakiro avait coutume de substituer ses propres images absurdes au hideur de l'actualité. Point. Et dans l'autre sens, au hideur de l'actualité, Yacoub Kadjbakiro avait coutume dans ses livres de substituer ses propres images absurdes. Bon. Il y a une valorisation, et la valorisation est d'ailleurs à double détente, si je puis dire, hein, comme un bang-bang, double détente, au hideur de l'actualité, se trouve valorisé, mais à la fin de la phrase aussi, ses propres images absurdes, le mot absurde se trouve valorisé d'être en dernier, je crois, sans comme ça. Ses propres hallucinations, partiales, inquiétantes et inquiètes. Il n'y a même pas de verbe, hein, là, on cherche. Mais ça fait suite. La plupart du temps, mais pas toujours évidemment, il obéissait à des règles logiques. Bon. Alors ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, il nous parle d'un monde qui pour les cartésiens hein, qui pensent comme Descartes, hein, logiquement, hein, l'homo logicus, cogitus. Il dépeignait le monde contemporain sur les mots, il réfléchissait, donc il réfléchissait sur les mots, hein, encore inversion, son expérience personnelle. Ça pourrait être d'ailleurs une sorte de métaphore pour cette façon de faire des phrases. Qu'est-ce que c'est « il réfléchissait » ? Il réfléchissait, c'est un verbe qui a deux sens. D'abord le sens de réfléchir, hein, comme Gaëlou, donc penser, et puis le sens du miroir. Le miroir réfléchit l'image. Or, qu'est-ce qui se passe si vous mettez une phrase devant un miroir ? Eh bien, elle se trouve inversée. Donc, vous mettez par exemple comme ça, sujet, verbe, complément, devant un miroir, et qu'est-ce que vous voyez dans le miroir ? Vous voyez complément, verbe, sujet. Donc, la phrase en miroir se trouve inversée. Et ici, donc, sur les mots, il réfléchissait son expérience personnelle, c'est-à-dire, il réfléchissait, il pensait à son expérience personnelle, mais en même temps, il réfléchissait son expérience personnelle. Il n'y a pas de « à ». Quand vous pensez à réfléchir au sens de « penser », en français, c'est toujours « penser à ». Je pense à quelque chose. Bon, c'est vrai que des fois, on dit « je pense quelque chose ». C'est normal aussi. Enfin, en tout cas, ici, on voit bien que l'image du miroir apparaît et correspond bien à un effet, hein, de miroir. Alors d'ailleurs, sur les mots, il réfléchissait son expérience personnelle, il scrutait sa génération. On peut penser d'ailleurs à l'art poétique de Stendhal, hein, puisque Stendhal écrivait que pour lui, l'écriture, c'était un miroir que l'on promenait le long des routes et qui permettait justement de décrire le monde que l'on voit en voyageant. Comme si l'esprit humain et l'écriture étaient une sorte de miroir. Donc cette image du miroir stendhalien, à laquelle Volodine n'a peut-être pas pensé, hein, mais se trouve quand même reprise ici. Alors son expérience personnelle est peut-être plus important, ou très important en tout cas, il scrutait sa génération, celle qui s'était sabordée dans la veulerie et les renoncements. Bon, alors la génération de Kachbakiro, dans le monde de Kachbakiro et de Champrousse, ou bien, puisqu'on a dit Kachbakiro, Volodine, c'est peut-être le même, pour Volodine, sa génération à lui, c'est-à-dire celle des années 60-70. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme gens dans les années 60-70 ? On a eu quelques révolutionnaires qui voulaient changer le monde, par exemple en mai 68, mais pas seulement en mai 68, hein, avant et après aussi. Bon, que ce soit des communistes, des anarchistes, des trotskistes ou d'autres noms qui pouvaient exister. Il semblerait que, par cette façon, l'écrivain Volodine ou l'écrivain Kachbakiro désigne sa génération, c'est-à-dire ses contemporains, ceux qui étaient ses amis à cette époque, en disant que cette génération s'était sabordée dans la veulerie et les renoncements. Alors, se saborder, c'est une métaphore. Normalement, c'est un bateau qui se saborde, c'est-à-dire qui décide de se couler pour ne pas se donner à l'ennemi. À l'origine, c'était ça, hein, le sabordage. On ne veut pas que ce qu'on a dans le bateau devienne la propriété de l'ennemi, donc on coule le bateau plutôt que de se rendre. Ou peut-être on se rend, mais on laisse le trésor, les armes, couler au fond de l'eau. Donc, se saborder, ça veut dire se sacrifier, hein, et également abandonner ses idées, donc là au sens métaphorique, hein, abandonner ses idées, ses combats, ses illusions personnelles. La veulerie et les renoncements. Alors les renoncements, tout le monde comprend bien, hein, on a renoncé à ce qu'on voulait faire et on s'est adapté à la situation du monde. Et puis la veulerie, qu'est-ce que c'est la veulerie? C'est un mot qui n'est pas facile à expliquer. Quelqu'un qui est veule, c'est quelqu'un qui est peureux, donc la peur, la lâcheté, peut-être l'hypocrisie, la trahison, c'est possible aussi. Hein, la veulerie, c'est tout un ensemble d'activités de quelqu'un qui a peur et qui est prêt à faire n'importe quoi pour sauver sa personne. Dans ce sens-là, c'est le contraire du sacrifice. Sacrifice, c'est celui qui abandonne sa vie parce qu'il y a quelque chose de plus important à défendre. Donc, veulerie comme opposition au sacrifice. Alors ça, c'était pour tout le côté logique, puisqu'il a dit logique. Et puis juste après, on parle des rêves. C'est-à-dire que au-delà des choses, de la réalité du monde, il y a aussi les rêves, et il pense que les rêves peuvent servir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les rêves? Il y a des clés indispensables pour comprendre l'état du monde. Alors, tout à l'heure, on a vu déjà deux possibilités d'utilisation hein, du rêve comme outil. Un moyen de transport, un moyen de télécommunication. Et maintenant, on voit une troisième possibilité, c'est pour comprendre l'état du monde. C'est-à-dire le rêve comme, comment on pourrait dire ça, moyen d'éducation ou de révélation, hein, un peu comme les médias vous expliquent quelque chose, peut-être pédagogique aussi, hein, éducation ou pédagogie, bon, par le rêve. Alors, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, la situation, hein, et donc vous allez rêver, et grâce à votre rêve, vous allez comprendre. Ah, j'ai compris. Bon, ça peut arriver d'ailleurs, hein, avec le rêve. Donc voilà ensuite comment se développe l'utilisation du rêve, et puis on arrive à la fin de ce paragraphe avec la réapparition du mot « exotique ». Après le milieu de la page, il semblait travailler sur d'abstraites fantasmagories, mais soudain, donc ça c'est l'idée de court-circuit, hein, ou de raccourci, on prend un chemin très très long, qui semble être perdu dans un monde je ne sais où, et d'un seul coup, on est au milieu de la ville, au milieu de la place. Donc c'est la technique du raccourci. Tout le monde connaît ce mot raccourci ? On connaît le chemin pour aller quelque part, mais quelqu'un vous dit « Ah, je connais un chemin un peu plus court. » Et d'un seul coup, on vous fait passer dans un endroit que vous ne connaissez pas, et ça va très vite. Bon, il faut se méfier. Parfois, il y a des gens qui proposent des raccourcis, puis ça marche pas. Après, ça prend plus de temps que prévu. Enfin, bon, la technique du raccourci. Ça va, raccourci?
Je vous l'écris.
Voilà, donc au sens de plus court, hein, on va raccourcir, on va diminuer le temps ou le chemin. Et soudain, ces mondes parallèles, exotiques, alors là, exotiques au sens de lointain, hein, inconnu, coïncidaient avec ce qui était enfoui dans l'inconscient du premier venu. Alors le premier venu, vous le prenez là dans la rue, hein, c'est le premier qui passe. C'est-à-dire c'est n'importe qui, et n'importe qui, dans son inconscient, il a ça. Bon, ça je crois que c'est tout à fait une pensée qui se rattache au surréalisme de l'époque, hein, des années 1920-1930, avec ces idées que on pouvait découvrir par les rêves quelque chose de la nature profonde de l'homme, donc au sens de l'inconscient. Soudain, alors on va expliciter, on va expliquer un peu ces images. Soudain, par le souterrain des mirages. Ça, c'est une des plus belles expressions du livre. Hein. Les mirages, vous savez ce que c'est les mirages? Ce sont ces images qu'on voit dans le désert, à cause de du reflet, de la lumière. On croit voir de l'eau, des arbres, alors qu'on est en train de mourir de soif. Un mirage. Et alors, le souterrain des mirages. Donc on va voir un mirage et d'un seul coup, on va arriver très vite à l'oasis. Dans le désert, c'est l'oasis. Donc, je ne sais pas si ça marche, d'ailleurs. En général, ça ne marche pas, mais là, ça nous est proposé. Donc, le souterrain des mirages, on débouchait sur la place principale de la capitale. Donc, on sortait, comme on sort du métro. Ça fait penser, d'ailleurs, à beaucoup de mes étudiants, quand je leur demande où se trouve telle ou telle chose, ils ne savent pas. Ils savent la station, ils savent comment on y va, mais ils ne savent pas si c'est au nord, au sud, à 10 ou 3 kilomètres. Donc, leur idée, c'est par les souterrains. On sait comment y aller, mais en surface, on ne sait pas. On ne sait pas où c'est. Donc, l'idée de souterrain est, hop, on arrive, comme de façon un peu magique, au milieu de la place. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve là? Eh bien, à Champs-Rouches, dans la vie quotidienne, banale, on retrouve... Et ces expressions répétées, millénaire cancer, millénaire barbarie, millénaire reculade. Pourquoi répéter trois fois millénaire? Eh bien parce que, pour intensifier et montrer que c'est quelque chose de très très vieux dans l'activité humaine, que on essaye d'évoluer, de développer, d'avoir un progrès, une amélioration, des droits de l'homme, des choses comme ça. Et cependant, quelque chose est toujours là. Ce sont des cancers toujours actifs en chacun. Bien sûr, ce sont des métaphores de l'horreur de la pensée. Des millénaires de barbarie. Là, ce sont des actions, des actes humains de barbarie, de massacre. Et les millénaires reculades. Reculade qui se rattache directement au mot renoncement qui était à la troisième ligne. Reculade et renoncement, ça veut dire que on a pensé à faire quelque chose et on est obligé de reculer. Finalement, on reste à sa place, on renonce à un projet, à une idée. Et enfin, après ces choses tout à fait, disons, politiques, dans ce sens-là, ça fait des milliers d'années que les hommes ont ces cancers dans la pensée, dans les actes, et pensent à des choses, mais ne les font pas. Donc avancer et reculer. Et on passe du politique à une dimension un peu plus générale, et peut-être un peu presque scientifique. Exotique est le terme que l'on applique à des particules déconcertantes mais fondamentales de la matière. Qu'est-ce que ça vient faire là, cette histoire? Vous avez déjà entendu parler de ça, de particules exotiques? On connaissait les particules élémentaires, le livre de Houellebecq. Et alors là, on a des particules encore plus élémentaires qui s'appellent des particules exotiques. Alors j'ai vérifié, et en effet, dans la science, la physique contemporaine, il y a une notion qui s'appelle particules exotiques. On appelle particules exotiques des particules extrêmement petites, donc là je fais ça, mais c'est beaucoup plus petit que mes doigts, des particules extrêmement petites et qui permettraient d'expliquer le fonctionnement ou l'existence de la matière noire. Dark matter. La matière noire, qui est bien sûr une chose que personne n'a vue, et donc les scientifiques essayent d'élaborer des explications. Et puis, je ne sais pas si vous savez, depuis quelques semaines, il existe maintenant un énorme appareil en Europe, sous les frontières de France, de Suisse et d'Italie, je crois. C'est un grand anneau comme ça, de 20 km, je ne sais plus si c'est de diamètre ou de circonférence, dans lequel on va accélérer des particules pour les faire se casser et essayer de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, de façon à comprendre le contenu de la matière et peut-être aussi à expliquer, si on peut l'expliquer, le fameux Big Bang, hein, de l'origine de l'univers. Je vous rappelle que Volodin écrit ce texte en 1990, hein, publié en 91. Donc peut-être que cette information de particules exotiques était déjà chez les scientifiques de cette époque, mais ça veut dire que l'auteur s'informe de l'existence de cette expression, parce que moi je l'ignorais tout à fait, et à cette époque j'ai fait aussi des études de sciences, donc il était meilleur que moi, c'est normal. Bref, on a d'abord un peu parcouru, dévoilé cette sorte d'art poétique de Kashbakiro, et en même temps, on a fini avec cette exposition de personnages qui commence vaguement à se rattacher. Alors cette exposition des personnages telle qu'elle a été faite, c'est l'histoire de trois hommes, c'est l'histoire de... etc. ressemble un peu, il faut le dire quand même, à un début de symphonie, par exemple. Au début d'une symphonie, vous avez un instrument qui commence, hein, qui se présente, hein, qui, une petite mélodie comme ça, peut-être avec un ou deux autres. Hein. Et puis ensuite, vous avez dans une autre partie musicale, hein, on a les instruments à vent, les instruments à cordes, bon, un autre instrument se présente comme ça, puis on a plusieurs commencements d'instruments. Et puis, petit à petit, il commence à concerter, hein, c'est la notion de concerto, de musique concertante, commence à jouer ensemble. Et puis après cette période de présentation des couleurs, des harmonies, de mélodies primaires, l'action va commencer avec un véritable mouvement symphonique où tout le monde va jouer ensemble. Alors bon, j'ai l'impression aussi que ça commence comme ça, à une sorte de métaphore de l'écriture à travers la musique, qui revient évidemment à cette notion d'alto solo, où il y aura quelqu'un, à un moment, qui va devoir jouer un solo. Hein, et ce solo aura certainement une grande importance. Et puis, à la page 35, 36, 37, qui était donc notre sujet d'aujourd'hui, on présente encore deux personnages et qui là amènent, à mon avis, les instruments de percussion, les tambours, des sons comme ça très, très bas, très militaires, très dangereux, hein, qui constituent en effet le danger de cette société, l'histoire de deux frondistes. Et ces deux frondistes sont en fait identiques, un peu comme dans l'image de clones ou de frères jumeaux. Alors ça aussi dans la littérature, hein, il y a tout un fantasme de jumeaux, de clones, alors de clones du côté de la science-fiction, mais de jumeaux, ça existe depuis toujours dans la littérature. Et l'un prenant la place de l'autre dans certaines situations, bon, on retrouve quelque chose de typique du point de vue littéraire. Ici, c'est donc à la page 35, au milieu, c'est aussi l'histoire de deux frondistes qui semblent en tout point identiques. En fait, ils sont 3, 500, 1000, ils sont légions, des millions, beaucoup plus que deux. Alors il y a une progression, hein, c'est comme le nez de Cyrano, hein. Ce n'est pas un nez, un pic, une péninsule. On a des mots comme ça de plus en plus larges. 3, 500, 1000, légions, des millions. Alors, être légion, ils sont légions, c'est une expression assez banale. Mais ça vient directement de la Bible, de l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament. Et Marc parle au démon, au diable, et il lui dit « Dis-moi qui es-tu ou combien êtes-vous » Et le démon répond « Nous sommes légions ». Nous sommes très nombreux. Alors légion, c'était d'abord la légion, le sens premier, c'est l'armée romaine. L'unité de l'armée romaine, c'est la légion. Donc vous avez combien de légions ? C'est pour mesurer les armées. Mais dans le vocabulaire biblique, c'est le diable. Et le diable, on dit le diable, mais en fait, ils sont très nombreux, ils sont partout. C'est le danger permanent, légion. Donc ici, deux frondistes et légion, donc tout de suite associés au domaine négatif et mauvais ou diabolique. Leur nombre s'explique et on arrive dans des explications tout à fait politiques que nous développerons la semaine prochaine, hein, puisque la semaine prochaine, nous verrons à la fois comment est construit ce pouvoir, c'est-à-dire ici dans ces pages 35-37, et en même temps, nous commencerons une application de ce pouvoir, c'est-à-dire comment il est construit intellectuellement et historiquement, et puis l'action qui va commencer dans ce livre, qui va commencer par aller demander aux gens d'un cirque de déménager de là où ils sont pour aller s'installer sur une place en plein centre-ville. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. On a déjà vu que, à cause des dettes, le cirque est tout à fait tenu par le pouvoir, donc obligé d'obéir. Voilà notre mission pour la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine. Préparez des questions, hein, si vous en avez, hein, sur les noms, sur le pouvoir, sur toutes sortes de choses. Hein.